Le journal Florence Paracuellos, bonjour Florence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. À la une ce matin, une furieuse envie de réussir avant 2022 et pourquoi pas après, celle d'Emmanuel Macron. Imprégné qu'il est de ces heures de grands débats, le président a rendu ses conclusions. Un peu de démocratie participative, mais pas trop. Des sous pour les petits retraités avec 1000 euros de pension minimum quand on a cotisé toute sa vie. De la proximité avec des maisons, des services publics dans chaque canton. Des classes à 24 élèves, on va parler de tout ça. Et se demander avec Cyril Graziani si le président a réussi son pari malgré les réactions négatives des gilets jaunes et de l'opposition ce matin. Question que vous poserez également à votre invité dans 20 minutes, Ali.
À 8h20, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sera l'invité du grand entretien de la matinale. Le standard est ouvert. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
Dans ce journal, nous serons aussi sur les lieux d'un crime dans l'Ain, dans la ville de la famille Roman, alors que Jean-Claude Roman va sortir de prison avant l'été. Et puis on fermera les yeux pour écouter la sublime voix d'Aldous Harding. Je ne vous en dis pas plus.
France Inter.
Du pouvoir d'achat et de la démocratie, voilà ce que demandent les gilets jaunes et tous ceux qui les soutiennent depuis le mois de novembre. Emmanuel Macron leur a donc répondu hier soir pendant 2h30. Il n'est pas venu les poches vides, on va le voir. Mais sur les questions de vote et de référendum, pas question d'ouvrir grand la porte. Karine Bécart, le président ne sera pas l'homme de la démocratie permanente.
Un peu plus de proportionnel, de l'ordre de 20% et 25 à 30% de parlementaires en moins. Voilà ce qu'a confirmé Emmanuel Macron et c'est à peu près tout. Parce que sur la prise en compte du vote blanc, par exemple...
J'ai un moment été tenté par cette option, j'y ai beaucoup réfléchi et je ne la retiendrai pas.
Même chose avec le vote obligatoire pour pousser les électeurs à revenir aux urnes. Là encore...
Je ne retiendrai pas cette option. Je ne crois pas qu'on réponde à la crise démocratique par la contrainte.
Alors qu'est-ce qui reste pour réoxygéner la démocratie justement ? Le RIC, évidemment, le référendum d'initiative citoyenne, mais porte close également.
Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois malgré tout que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie.
Ah ! Par l'intermédiaire du RIP, le référendum d'initiative partagée, Emmanuel Macron est prêt à abaisser à 1 million au lieu de 4,5 le nombre de signataires pour déclencher le dispositif. En revanche, pour sortir du grand débat, l'idée d'un référendum avec plusieurs questions, une fois de plus...
La décision d'en appeler au référendum, elle est en effet au titre de notre Constitution à la main du président de la République. Aujourd'hui, je n'ai pas retenu cette option.
Donc on ne s'y trompe pas. Le président veut bien d'une démocratie un peu plus délibérative, mais certainement pas participative.
Et comment associer davantage les citoyens aux décisions politiques en tirant au sort 150 personnes dès le mois de juin réunies en Conseil de la participation citoyenne. Ils seront chargés dans un premier temps de proposer des mesures d'aide aux ménages pour la transition énergétique. Mesures qui seront soit directement appliquées, soit soumises au Parlement, soit au référendum. Sur le pouvoir d'achat, maintenant, quelques confirmations. Il y aura bien des baisses d'impôts pour les classes moyennes à hauteur de 5 milliards d'euros. Sans plus de précision, les retraites seront bien réindexées, jusqu'à 2000 euros de pension, ça n'est pas tout. Le président a décidé de faire un geste pour les très petites retraites.
Aujourd'hui, quand on parle des artisans, des commerçants, on a des situations inacceptables. Parce qu'on a beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas cotisé comme il fallait, qui étaient dans des régimes qui étaient moins favorables que le régime général. Et donc on a des centaines de milliers de nos concitoyens qui vivent avec des retraites qui sont parfois sous le minimum vieillesse. Ce sont des situations terribles. Sur le plan personnel, moi je souhaite qu'on y réponde en redéfinissant un seuil minimal pour tous ceux qui ont travaillé. Et il doit être supérieur au minimum vieillesse plus significativement. Et donc je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 euros.
1 000 euros pour ceux qui ont cotisé toute leur vie. C'est une contrepartie à la réforme des retraites qui doit dégager des économies. Elle sera présentée à l'été. Et le président a tranché. Il n'y aura pas de recul de l'âge légal de départ, mais un système par points qui pourrait amener à cotiser plus longtemps. Ce qui est inacceptable pour le patron de la CGT, Philippe Martinez.
Comme d'habitude, il faut lire entre les lignes. Mais comme on a un peu l'habitude de la pratique du président, on a bien compris que si on ne touche pas aux 62 ans, si on veut continuer à vivre à peu près dignement, il faudra travailler plus longtemps parce que le niveau des pensions, avec le système de décote prévue dans le cadre de cette réforme ne permettra pas de vivre dignement à partir de 62 ans. Et en fixant à 1000 euros le seuil minimum de retraite, c'est absolument, enfin en tout cas, lui, il n'a sûrement pas vécu ça, mais c'est absolument impossible de vivre avec 1000 euros. On essaie de survivre avec 1000 euros. Donc la colère qui est très forte, elle ne va faire que se renforcer. En tout cas, la CGT, elle est prête. On a plusieurs rendez-vous dans le paysage et elle est prête à se mobiliser pour qu'on ait des choses concrètes telles qu'on les entend depuis des mois et des mois.
La CGT mobilisée au micro de Maxime Debs. Voilà maintenant qui fera consensus. Le terme de proximité est revenu plusieurs fois dans la bouche du président. Hier soir, son projet se veut plus juste et plus humain. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
La République plus proche des citoyens, comment cela va se traduire ?
Mais de ses déplacements sur le territoire tout au long de ce grand débat, Emmanuel Macron a visiblement été marqué par la fracture territoriale. Hier, il a annoncé la création dans chaque canton, d'ici à la fin du quinquennat, d'un endroit où on puisse trouver réponse aux difficultés qu'on rencontre. CAF, Pôle emploi, il l'a baptisé France Service. Mais ça signifie plus de monde sur le terrain. Là, il s'est dit prêt à lever son objectif de réduction de 120 000 du nombre de fonctionnaires s'il n'est pas tenable. Des fonctionnaires aux hauts fonctionnaires, l'ENA. Alors on n'a pas bien compris ce qu'il a présenté en propos liminaire. Il n'évoquait plus de suppression, mais une demi-heure après, il a confirmé ce qu'il avait qualifié lui-même de rumeur quelques minutes plus tôt. Oui, l'école nationale d'administration sera supprimée. Il veut bâtir, dit-il, quelque chose qui fonctionne mieux. Un rapport en ce sens a été confié à Frédéric Thiriez, l'ancien président de la Ligue de football.
Et dans la série Proximité, plus de fermeture d'écoles ni d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat et cette confirmation, pas plus de 24 élèves dans les classes de la grande section de maternelle au CE1, sur le papier c'est bien, mais avec combien d'enseignants? Il y en a eu 1000 de moins cette année au concours des professeurs des écoles et l'organisation des classes relève toujours du casse-tête dans les établissements, comme l'a constaté Adrien Toffolet dans une école de l'Eure.
156 élèves de la petite section au CM2 répartis en 6 classes de double niveau. Sylvie s'occupe de celle de grande section CP et avec seulement 24 élèves, elle est la mieux lotie de l'école.
Je suis la classe où il y a le moins d'élèves pour mes collègues. En maternelle, elles sont à 28, 29 et puis en cycle 3, le maximum c'est 30.
24 élèves, un luxe qu'il faudra donc appliquer aux 3 classes concernées dans l'établissement. Une bonne chose, autant pour les élèves que les enseignants, reconnaît Sylvie, mais qui devrait poser problème dans son application.
Les arbitrages financiers ont déjà été faits, donc comment s'organiser pour honorer cet engagement?
En plus, la ville s'agrandit, 166 élèves sont déjà inscrits pour la rentrée prochaine. La directrice Manon a déjà commencé à faire une projection d'organisation.
Au niveau de la grande section CP-CE1, on en a 66. Ça ferait 22 pour 3 enseignantes. Mais du coup, ça veut dire qu'il nous reste 3 enseignants pour les 100 autres élèves, pour arriver aux 166 au total.
Ça veut dire des effectifs de 33 pour les classes restantes et la petite section maternelle mélangée à une classe de primaire. Bref, le constat est sans appel.
Clairement, ils sont plutôt pénalisés. On prend à Paul pour habiller Pierre.
La solution pourrait venir d'une potentielle ouverture de classes, d'effectifs et de moyens supplémentaires pour cette école peut-être, mais rien ne laisse entendre à ce jour que tout le territoire pourra en profiter.
Alors sans surprise, après 2h30 de conférence de presse, l'opposition n'a pas dit « waouh ! » Emmanuel Macron n'a rien compris aux attentes des Français, selon Manon Aubry de la France Insoumise. Il n'a rien dit pour Jordan Bardella du Rassemblement National. Selon François-Xavier Bellamy, pour Les Républicains, les questions fondamentales restent à trancher. Quant à Yannick Jadot des Verts, il regrette l'absence d'un vrai plan Marshall pour le climat. Chez les Gilets jaunes, ça n'est pas tellement mieux. Pour l'irréductible Maxime Nicole, alias Flyrider, le président n'a balancé que des miettes en gardant son cap. Priscilla Ludowski appelle, elle, à continuer à manifester tous les samedis et le 1er mai. Plus mesurée est Ingrid Levasseur, sortie du mouvement. Elle vient de lancer une association d'aide aux familles monoparentales pour lesquelles Emmanuel Macron promet de saisir les pensions sur les comptes des conjoints qui ne payent pas. Cela dit, cela ne réglera pas tous les problèmes. Écoutez-la.
Au départ, j'y ai cru. Je me suis dit, bon, il fait un beau mea culpa, il va nous faire l'effet waouh tant attendu. Et au final, pas de surprise, c'est tout simplement ce qu'il avait laissé paraître la semaine dernière. Moi, je suis très déçue. C'est absolument pas ce dont on avait envie. Et en tout cas, c'est pas précisément ce que l'on attendait de lui. Au départ, il dit qu'il a entendu les revendications. À quel moment est-ce qu'il parle réellement du pouvoir d'achat? À quel moment est-ce qu'il parle de l'augmentation de l'EDF qui ne va pas tarder à arriver, les 6% en plus? plus. À quel moment est-ce qu'on va réellement parler du prix de l'essence qui reflambe de nouveau aux pompes? En fait, il ne fait ni plus ni moins ce qu'il avait l'intention de faire auparavant.
Ingrid Levavasseur, interrogée ce matin sur France Info, de la déception, hein, on l'entend, malgré beaucoup d'annonces, et une grande ambition. Cyril Graziani, Emmanuel Macron l'a dit, il veut ouvrir un nouvel acte de la République, pas seulement du quinquennat, donc. Est-ce que ce pari est gagnable, Cyril?
Alors, le premier test révélateur, ce sera dans un mois, pile poil, le 26 mai, date des européennes. Le 10 décembre, Emmanuel Macron, vous vous souvenez, avait lancé « Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies ». Hier, il n'a pas renversé la table sur sa gouvernance. Il a donné l'impression d'avoir changé de méthode, mais pas de cap. Est-ce qu'on a fait fausse route depuis 2 ans, interroge-t-il, avant d'apporter sa réponse? Je crois le contraire. Les réformes doivent être préservées, poursuivies et intensifiées. La ligne politique est claire, elle restera à droite. Pas de nature donc à garantir une réduction immédiate du sentiment de crise en France. Emmanuel Macron a beaucoup écouté ce que lui ont dit les Français. J'ai entendu, a-t-il répété, mais il n'a finalement pas retenu énormément de choses de leurs attentes. Le chef de l'État a célébré l'art d'être français. Il voit loin, horizon 2025, bien au-delà de son mandat. Il a une ambition, éradiquer d'ici là le chômage de masse. Mais attention, ça peut être très dangereux de se fixer de tels objectifs.
Cyril Graziani, merci. Et pour finir la séquence, comme c'est achevé la conférence de presse, revenons à l'été dernier, au mois de juillet, qu'on pourrait dater comme le début des ennuis pour Emmanuel Macron. L'affaire Benalla, ce collaborateur de l'Élysée repéré en train de malmener des manifestants le 1er mai et tout ce qui a suivi. Regrette-t-il Emmanuel Macron de l'avoir embauché?
Au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes très graves. Laissait-on tout aujourd'hui? Je ne sais pas. Il a droit à la présomption d'innocence, aussi, comme tout citoyen dans la République. Mais de ce fait, quoique n'ayant jamais été protégé par l'Élysée, qu'il a sanctionné, qu'il a ensuite licencié, et qu'il n'a jamais cherché à le protéger à l'égard de quelques services administratifs ou du grand public, il n'a pas donné une bonne image. Il n'y a jamais eu de prébende pour Alexandre Benalla, à l'Élysée. Il n'a pas été protégé face à la justice, face aux médias. Donc je le regrette pour ça, mais je ne regrette pas les choix faits à d'autres moments, parce que je ne savais pas tout. Et quand vous décidez d'employer quelqu'un, il y a une part de risque, la responsabilité qui va avec. C'est ma part de responsabilité. Mais on en a sans doute beaucoup fait sur cette affaire. Beaucoup. Peut-être trop.
Voilà pour cette grande conférence de presse d'Emmanuel Macron, la première du genre, mais pas la dernière, promet-il. Ses annonces, sachez-le, sont à retrouver en détail sur franceinter.fr.
8h12, la suite du journal, et dans l'actualité aussi, la libération annoncée de Jean-Claude Roman.
Après 26 ans de prison, cet homme qui s'était fait passer pour un médecin avant de tuer sa femme, ses 2 enfants et ses parents a obtenu une libération conditionnelle. Il devrait sortir avant l'été, ce qui est assez mal vécu à Prévesin-Moëns, dans l'Ain, où la famille Roman habitait. Reportage sur place, signé Mathieu Mondoloni.
Pendant 26 ans, elle a refusé de parler. Aujourd'hui, cette habitante de Prévesin veut briser le silence.
Qu'on lui dise aujourd'hui qu'il est libre, c'est trop.
Elle souhaite rester anonyme et se présente comme
une amie de Florence,
l'épouse de Jean-Claude Roman.
Je n'ai pas osé appeler Madame Crollet la maman de Florence. J'ose pas imaginer dans quel état elle doit être. Déjà, nous, les amis, on ne peut pas accepter, mais je pense à la famille. Et quelqu'un qui tue 5 personnes, dont 2 enfants, 5 ans et 7 ans, il n'a pas le droit d'être dehors. La justice se fait berner comme nous, on s'est fait berner.
C'est un manipulateur, renchérit Emmanuel Crollet, l'un des 2 frères de Florence.
J'ai entendu son avocat aujourd'hui qui dit que Roman est bouleversé. Si lui est bouleversé, je ne sais pas quel est le qualificatif il faut donner à ma mère dans son état actuel. Le message que je lui adresserai, c'est Roman, est-ce que vous vous rendez compte de l'indécence dont vous avez fait preuve? Et puis je lui demanderai aussi pourquoi tant de haine? Combien de fois encore va-t-il nous embêter? Combien de fois?
À Prévesin, on préfère tourner la page, dit la maire de la commune. Seule une vieille bâtisse aux murs gris et aux volets bruns rappelle le drame qui s'est déroulé ici il y a 26 ans. C'est l'ancienne maison de la famille Roman.
À l'étranger, le président du Sri Lanka annonce ce matin la mort de l'homme clé des attaques du dimanche de Pâques, un extrémiste musulman mort dans l'attentat suicide d'un des hôtels de luxe de Colombo. C'est lui qui apparaissait sur une vidéo publiée par le groupe État islamique. La police recherche encore 140 personnes après ces attentats qui ont finalement fait 253 morts selon un dernier bilan revu à la baisse. Allez, Un peu de douceur pour conclure ce journal, ça va nous faire du bien. La douceur de la voix d'Aldous Harding, jeune chanteuse néo-zélandaise. Voici son troisième album, Designer. Et c'est Mathieu Culeron qui nous en parle. I feel your
love. I feel time is up. À moins de 30 ans, Aldous Harding semble porter le poids du monde dans ses chansons. En seulement 3 albums, la néo-zélandaise a su se faire une réputation internationale grâce à une musique aérienne, sobre et mélancolique. Can you make a space on the sea? Dans ce dernier disque, cette héritière de Cat Power à la voix légèrement grave propose de grandes ballades désespérées et dépouillées. I see no reason. Perdu émotionnellement, Aldous Harding chante les grands espaces et nous raconte que le paradis est un endroit vide où elle ne souhaite pas aller.
Les gens disent que ce disque est bien plus gai. Ce n'est pas le cas. Les choses dont je parle sont même pires, mais je les aborde d'une façon différente. Au lieu de s'accrocher à quelqu'un et de pleurer, je serre les poings et je me dis que ça n'a pas d'importance.
Designer est un disque d'une beauté infernale. Il vient couronner Aldous Harding comme l'une des grandes chanteuses du moment et pour longtemps.
Voilà, c'est beau et mélancolique. Aldous Harding, Designer, son troisième album. Et sachez qu'elle sera en concert à Paris, à la Maroquinerie, le 25 mai prochain.
Et j'ai eu le temps de télécharger son album sur mon téléphone portable. Merci Florence Paracuelos. Bon week-end, tout de suite, la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Gautier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gautier.fr.
Marie-Pierre, une météo moins pire qu'hier.
Oui, on va dire, Ali, une journée de transition par rapport à ce qui nous attend demain sur la moitié nord et ce fort coup de vent envoyé par la tempête Anna qui est située sur la mer du Nord et qui va balayer le nord-ouest du pays avec des rafales à 110 km par heure. Gardez votre petite laine pour ce week-end, pas plus de 11 à 13 sur la moitié nord. En attendant, aujourd'hui, on va retrouver les résidus de la dépression d'hier, des Pyrénées en remontant sur la façade est avec ce matin des averses de l'Alsace à la Côte d'Azur, de la neige sur le relief alpin mais aussi sur le massif central et les reliefs pyrénéens. Sur l'ouest, on passe dans un vent d'ouest océanique donc qui apporte de l'humidité de l'Atlantique avec un ciel de traîne, mêlant averses et éclaircies, du sud-ouest à la Bretagne avec de belles ondées orageuses, puis en revanche des Hauts-de-France à la Bourgogne et en passant par l'Île-de-France, un peu de soleil dominant, ça fait du bien. Et vers la Méditerranée, le retour est au calme, plus ensoleillé avec du vent. Et en Corse, par contre, votre matinée plus pluvieuse et venteuse.
Et cet après-midi, Marie-Pierre, les averses orageuses vont se réactiver.
Oui, sur les trois quarts du pays, avec quelques orages isolés, parapluies indispensables. Sur le sud-est, ce sera bien plus calme, ça va se maintenir avec le Mistral et la Tramontane, comme en Corse. Le ressenti sera souvent frais avec des températures en baisse. Hein, pour la saison 10 à Aurillac, 11 à Belfort, 12 à Boulogne-sur-Mer, pas plus de 14 à Toulouse. Vous aurez 15 à Nancy, Strasbourg et Château-d'Oléron. Comptez 17 à Lille, à Paris, à Lyon. Ça va monter à 18 à Nice, un petit peu plus à Perpignan avec 19 et on atteindra enfin les 20 à Bastia.